Comment les cancers pédiatriques peuvent-ils être mieux soignés? Votre invitée ce matin, Isabelle Duché, chercheuse en cancérologie, annonce quelques pistes.
Aujourd'hui, plus de 50% des enfants atteints d'un cancer sont pris en charge avec des traitements inadaptés, indique l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Afin de répondre à cette problématique, deux chercheuses du Centre de cancérologie de Toulouse concentrent leurs recherches sur le cancer pédiatrique affectant le système immunitaire. L'une d'elles est notre invitée. Bonjour Fabienne Mégéto.
Bonjour Isabelle Duché.
Vous êtes co-directrice de l'équipe biologie des ARN dans les cancers hématopoïtiques pour l'INSERM, le centre de recherche en cancérologie de Toulouse. En quoi, Fabienne Mégéto, les cancers de l'enfant diffèrent-ils de ceux de l'adulte?
Alors, avant tout, ce qui est différent, c'est qu'on s'adresse à des enfants. Et bien évidemment, on ne peut pas regarder ces cancers de la même façon que les cancers de l'adulte. Et c'est le problème que l'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait, on transpose les résultats de la recherche sur les cancers de l'adulte vers les cancers de l'enfant, ce qui est bien entendu n'est pas du tout adapté à la question.
Et pourtant, il y a quand même un nombre assez important de cancers pédiatriques. J'ai ce chiffre du cancer chez les enfants qui est la quatrième cause de décès entre 0 et 15 ans et la deuxième cause de décès après les accidents pour les plus d'un an. C'est dire quand même l'importance de la recherche. Alors, quels sont les outils employés pour la mener à bien?
Alors, effectivement, ces chiffres, c'est environ 2500 enfants et ados qui sont diagnostiqués en France chaque année. Plus de 30 000 en Europe et en France à peu près 500 enfants vont décéder, soit 6 000 en Europe, ce qui pour vous donner une ordre d'idée, ça représente 240 classes d'école. Donc effectivement, c'est important en fait de développer des axes de recherche spécifiques sur les cancers pédiatriques pour aider à mieux les diagnostiquer, pour aider à mieux les soigner et bien évidemment à mettre en place des stratégies de moins en moins toxiques. Puisqu'on s'adresse à des enfants, et bien évidemment, il faut leur permettre d'avoir une vie d'adulte la plus heureuse possible et en ayant le moins d'impact suite à la maladie.
Est-ce qu'on peut rappeler peut-être quels sont les principaux types de cancers chez l'enfant?
Alors, les principaux types de cancers chez l'enfant sont des cancers qui touchent le système nerveux, essentiellement neuroblastome, glioblastome. Et puis ensuite, on va trouver les cancers qui touchent, comme vous l'avez dit, les cellules immunitaires, c'est-à-dire les cellules du sang. On va parler de leucémie lorsque ces cancers touchent les cellules circulantes, c'est-à-dire des cellules que l'on trouve dans la moelle et dans le sang. Et on parlera de lymphome lorsque ces cellules sont dans des organes lymphoïdes comme les ganglions. Les ganglions, par exemple, c'est des petites glandes que l'on a, en fait, des petites structures que l'on a au niveau du cou.
Donc, on imagine qu'il y a quand même une grande diversité des tumeurs. C'est ça aussi qui fait la difficulté pour soigner les enfants atteints de cancer?
Oui, il y a une grande diversité. Et comme de façon globale en cancérologie, chaque tumeur est différente, qu'on s'adresse à des enfants ou à des adultes, bien évidemment. Chaque tumeur est différente et il faut absolument bien la caractériser, bien la connaître de sa surface jusqu'à l'intérieur de la cellule tumorale pour essayer de mieux la comprendre et du coup d'essayer de mieux comprendre son origine, son développement, sa réponse au traitement, ce qui nous permet du coup d'avoir des stratégies beaucoup plus efficaces de suivi et de traitement.
Donc ça, c'est le travail que vous faites, Fabienne Mégéto. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement ce que vous faites à partir dans ce travail de recherche?
Alors nous, effectivement, c'est ce qu'on fait. On essaie d'aller au plus loin de la cellule, c'est-à-dire que en s'intéressant à l'ARN, alors l'ARN, on connaît maintenant très bien, c'est l'ARN messager, cet ARN qui va permettre de coder une protéine et de mettre en place une vaccination. Eh bien, il y a d'autres types d'ARN qui, eux, ne sont pas utilisés pour la vaccination, mais qui vont être utilisés comme traceurs, c'est-à-dire comme réponse, en fait, au traitement. Et nous, ce qu'on fait, en fait, à partir de cellules de patients, on essaie d'étudier ce qu'on appelle l'image de l'ARN dans une cellule tumorale, que ce soit au moment du diagnostic, mais aussi pendant le traitement, c'est-à-dire chez des patients qui ont bien répondu ou qui sont en rechute, pour essayer de comprendre quel est le profil de ces ARN et voir s'ils peuvent nous aider, en fait, à suivre l'évolution de la maladie et du coup sa réponse au traitement. Alors, l'important, c'est qu'on ait des stratégies, en fait, peu invasive, c'est-à-dire que comme on s'adresse à des jeunes patients, il faut qu'on ait des outils et des méthodes de diagnostic en fait peu invasives et on essaie de mettre au point ces stratégies à partir d'une prise de sang.
D'accord. Donc effectivement, là, il y a une prise de sang qui est faite avant le traitement et une pendant le traitement. Et à partir de ça, vous mesurez l'influence de l'ARN. Et c'est cet ARN qui vous dit si le traitement est adapté ou pas, c'est ça?
Voilà, exactement. On va dans un premier temps étudier l'ARN au niveau de la tumeur. Si on identifie un ARN qui nous paraît spécifique de la maladie du patient, eh bien après, on va effectivement essayer de suivre cet ADN au niveau d'une prise de sang.
Est-ce que vous avez déjà des résultats dans votre recherche, Fabienne Mégéto?
Alors, on a déjà publié plusieurs travaux sur une certaine catégorie d'ARN, qui sont des ARN de toute petite taille, qu'on appelle les micro-ARN, où effectivement, on a montré que certains de ces ARN, en fait, pouvaient aider à poser le diagnostic ou à suivre la réponse au traitement. Et maintenant, en fait, on s'intéresse à une nouvelle classe d'ARN qui sont des ARN dits circulaires parce qu'ils ont une structure en forme de cercle. Et on s'intéresse particulièrement à ces ARN parce qu'ils sont très stables. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que notre objectif final, c'est effectivement d'aller pouvoir les détecter dans une prise de sang. Donc, il faut qu'on aille détecter une molécule qui est stable, en fait, hein, qui n'ait pas de problème de dégradation ou de perte. Et au travers de nos études, eh bien, nous avons effectivement d'ores et déjà plusieurs pistes à explorer en ce qui concerne ces ARN circulaires.
Et les pistes que vous explorez, c'est sur les traitements qui peuvent être adaptés finalement aux enfants atteints de cancer?
Tout à fait. Ces ARN circulaires, c'est des biomarqueurs de diagnostic et de réponse au traitement, mais ça peut être aussi de nouvelles cibles en fait pour le traitement. Et par exemple, si on détecte ces ARN très précocement alors que le traitement n'est pas le plus efficace, eh bien on travaille actuellement on mène des recherches actuellement pour savoir si ces ARN-là pourraient être aussi de nouvelles cibles thérapeutiques. Et de ce fait, on pourrait proposer en fait de compléter ou de réorienter les traitements pour que ces derniers soient plus efficaces en ciblant ces fameuses ARN circulaires.
Oui, parce que pour l'instant, les enfants atteints de cancer bénéficient des mêmes traitements, vous le disiez, hein, Fabienne Mégéto, des mêmes traitements que pour les adultes. Donc finalement, une chimiothérapie ou une thérapie plus ciblée comme l'immunothérapie. Est-ce que ce sont ce genre de traitements qui pourraient finalement demain ne plus être proposés aux enfants?
Oui, c'est-à-dire que la chimiothérapie ou les thérapies actuelles, elles se basent sur les résultats que l'on a à partir des adultes. Et bien évidemment, on ne peut pas raisonner de cette façon. On sait très bien que dès sa naissance, on va adapter pour un enfant son traitement, hein, la posologie, à son poids, mais aussi le format du médicament qu'on va lui proposer. Et donc actuellement, on ne peut pas concevoir qu'on adapte des traitements pour l'adulte vers l'enfant. Donc c'est ça l'idée, effectivement. C'est d'aller trouver des stratégies thérapeutiques complètement adaptées à l'enfant et évidemment avec un objectif de réduire un maximum la toxicité qui n'est pas étudiée puisque la toxicité actuellement étudiée, c'est des stratégies pour l'adulte encore une fois et pas du tout développées par rapport à l'enfant.
C'est quand même fou ce que vous nous dites, Fabienne Végéto, ce matin. Vous nous dites que finalement, quand on mesure l'impact d'un traitement pour le cancer d'un enfant, finalement, on regarde les effets sur l'adulte et on les transpose avec une espèce de, enfin je dirais, comme une règle de trois sur l'enfant.
Ben, c'est à peu près ça malheureusement parce qu'effectivement les programmes de recherche dédiés spécifiquement au cancer pédiatrique, il y en a très très peu en France. Certes, ils se développent depuis ces dernières années. Hein. Il y a des projets qui ont été menés grâce à l'impact en fait des associations de parents auprès de l'Institut national du cancer et de l'État. Ça, c'est vrai qu'on a énormément progressé. On a des appels d'offres qui maintenant sont ciblés cancer pédiatrique. Mais quand vous regardez en fait ce nombre d'appels d'offres dédiés au cancer de l'enfant versus ceux qui sont dédiés au cancer de l'adulte, eh bien ça représente rien du tout en fait. Donc effectivement, il faut qu'on ait des appels d'offres, des projets dédiés spécifiquement sur les cancers pédiatriques pour pouvoir progresser au mieux sur la thérapie pour ces cancers.
Alors, un des projets peut-être auquel vous faites allusion, c'est cette grande conférence internationale de Paris qui s'est tenue les 7 et 8 novembre sur les données relatives au cancer de l'enfant. Elle se situe dans la ligne du G7 lancée en mai 2023 pour renforcer la coopération entre les organisations pour accélérer la lutte contre la maladie. Là, c'est quand même des signes positifs qui montrent qu'il y a quand même des initiatives qui sont prises pour soigner le cancer, les cancers pédiatriques.
Oui, il y a plusieurs signes très positifs en ce sens-là. Ça, il faut le mettre en avant quand même. Hein. Il y a sur l'année dernière un souhait aussi de mettre en avant des laboratoires spécifiques dédiés au cancer pédiatrique au travers de stratégies de labellisation de laboratoires d'excellence. Il y a des programmes INCa qui se sont ouverts sur les 5 dernières années. Donc, il est clair qu'il y a une volonté en fait d'avancer rapidement sur cette problématique des cancers pédiatriques.
Et dans quelle mesure les pays limitrophes de la France ou même les États-Unis ou peut-être le Japon, que sais-je, participent à ces recherches?
Alors, on est avant tout des scientifiques. L'objectif d'un scientifique, c'est de partager, de collaborer, de transmettre. Et donc, on a tous dans cet état d'esprit le souhait et la motivation, en fait, de travailler en collaboration. Et tous les pays que vous venez de citer, eh bien, on collabore, en fait, avec eux, les chercheurs français et, à l'inverse, les chercheurs étrangers avec les Français, pour aller de plus en plus vite dans nos travaux. Et ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien depuis toujours.
Dans un article publié par Care News le 13 février 2023, vous déploriez, Fabienne Mégéto, la faible implication des grands industriels du médicament pour les enfants atteints de cancer, en considérant qu'il s'agit d'un marché économique faible par rapport au cancer de l'adulte. Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour remédier à ce défaut d'implication des industriels du médicament?
Non, pas encore. Là aussi, il y a un souhait en fait de les remobiliser. Et dernièrement, d'ailleurs, j'étais avec la fédération Grandir sans cancer pour une réunion à l'Assemblée nationale pour discuter justement de la mise en place d'appels d'offres dédiés spécifiquement pour les chercheurs et les industriels pour le développement de médicaments. C'est effectivement un problème majeur, c'est-à-dire que je le rappelle, j'ai dit qu'il y avait à peu près 2500 enfants touchés chaque année par un cancer pédiatrique, mais au regard du cancer de l'adulte, évidemment, c'est très peu, heureusement, mais pour autant, c'est trop. Et effectivement, ce marché industriel, il n'intéresse pas les big pharma pour la commercialisation. Si on prend l'exemple du cancer sur lequel je travaille, qui touche des enfants, eh bien, une anomalie génomique qui est présente dans ce cancer, qui est aussi présente dans le cancer du poumon, eh bien, a incité les industriels à développer des molécules pour le cancer du poumon, qui est une molécule qui effectivement touche, qui est un cancer qui touche effectivement l'adulte, mais comme vous pouvez bien facilement le comprendre, il y a beaucoup plus de cancers du poumon que le cancer de l'enfant sur lequel je travaille. Et il a fallu quasiment 12 ans, si c'est pas plus, pour que cette molécule qui est utilisée dans le cancer du poumon soit utilisée en fait pour le cancer pédiatrique. Et ça date d'il y a quelques années uniquement. Donc vous voyez, l'industriel va d'abord en fait vers la raison économique avant de s'intéresser plus spécifiquement à la pathologie, au type de pathologie.
Alors, bien heureusement, vous bénéficiez du soutien notamment pour ce projet de la Fondation de France Sud-Ouest. C'est ce qui nous a permis de prendre connaissance en fait de toute votre recherche. Ça, c'est un soutien indispensable pour vous.
Oui, c'est un soutien. En fait, les associations et les fédérations sont indispensables et les fondations sont indispensables à notre recherche, en particulier parce qu'elles nous permettent de financer les jeunes chercheurs au sein des laboratoires. Et c'est vrai qu'en fait, ces jeunes personnes, ces jeunes chercheurs sont indispensables pour l'avancée de nos recherches. et bien évidemment, ça associe les financements pour acheter nos réactifs et nos éléments indispensables pour nos expériences.
Voilà, et heureusement, cette petite lueur d'espoir. Merci beaucoup, Fabienne Mégéto, chercheuse à l'INSERM. Vous nous avez parlé ce matin de ce traitement, de la recherche en tout cas des traitements adaptés pour les cancers pédiatriques. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup, bonne journée.